Nous allons continuer donc cette étude de la première question, nécessité de la grâce. Alors essayez, il faudrait le faire d'une seule traite, hein, puisque n'oubliez pas que l'unité dans saint Thomas, c'est pas l'article, c'est la question. Et donc c'est la question qui doit être vue dans son unité, en comprenant ce que saint Thomas veut nous faire saisir dans cette question, c'est que la grâce n'est pas quelque chose d'artificiel, quelque chose qui vient s'ajouter de l'extérieur, comme une toiture par-dessus, une construction. C'est quelque chose qui est une greffe. Hein, c'est toujours la grande vision des pères de l'Église. Donc ça vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Ça vient bien de l'extérieur parce que ça vient de Dieu. Et donc ça vient bien de l'extérieur, mais ça s'enracine dans ce qui est de plus profond en nous. Et donc ça rejoint l'appétit, le plus grand bonheur qui est en nous. Alors, c'est à la fois au-delà de la nature et en même temps ce qui correspond à ce qu'il y a de plus immanent dans la nature. Mais c'est au fond cette situation très difficile et nos mots ne correspondent plus puisqu'on est en face d'un mystère divin. Nous avons intériorité, extériorité. Nous avons immanence et transcendance. Hein, nous avons ces mots-là qui sont des mots système. Eh bien, quand il s'agit du mystère de la grâce, il faut comprendre que le mystère de la grâce s'empare de notre nature humaine d'une manière telle que la grâce fait que notre nature, transformée par la grâce, sera encore plus ce qu'elle doit être, ce qu'elle est. Vous voyez ? Alors, on sent très bien que saint Thomas jongle là-dessus, hein, au point de vue théologique. Il essaie de comprendre constamment ces deux aspects. Et là, je crois que ce serait là intéressant de voir comment les diverses théologies sur la grâce n'ont pas toujours parfaitement harmonisé cela. Et je crois que saint Thomas est le théologien de la grâce qui a harmonisé ça parfaitement. Saint Augustin ne l'a pas harmonisé pleinement. Et Suarez après, pas du tout. Alors il faut essayer de comprendre comment saint Thomas harmonise cette manière très étonnante de voir cela. Alors deuxièmement, il faut comprendre les degrés de vie se prennent du côté de la connaissance. Parce que les degrés de vie se prennent du côté de l'assimilation. Et c'est la connaissance qui nous montre le problème de l'assimilation. L'amour, c'est une tendance. Et donc, l'amour ne nous donne pas les degrés de vie. Or, il s'agit de saisir là un nouveau degré de vie. Un degré de vie qui n'est pas le degré naturel, qui est un degré divin. Et ce degré divin de vie va permettre à notre nature humaine d'être parfaitement et totalement d'elle-même. Oui. Je dis ça, c'est parce que je crois qu'il faut essayer tout le temps, à la fois d'être dans l'analyse et puis de voir un peu le grand mouvement que donne saint Thomas. Alors, l'homme peut-il sans la grâce connaître quelques vérités ? Ça, ce que nous avons vu, n'est-ce pas ? Donc, c'est le problème de l'intelligence, tout de suite, voyez, quelques vérités. Saint Thomas prend ce point de vue-là. Est-ce que, de fait, la nature corrompue, la nature telle qu'elle est, peut... Alors, saint Thomas, dans son analyse, hein, on le voit très bien, dans son analyse, il prend l'état de justice originelle, d'intégrité, l'état de pécheur, là, les deux extrêmes. Et puis, entre deux, il essaie de saisir ce que c'est que la nature. Et la grâce se place du côté de la nature. Vous voyez ? Mettez bien cela. C'est ça peut-être la plus grosse difficulté que nous avons dans cette question-là. Vous avez la justice originelle, l'état de justice originelle, un état de justice originelle que l'homme a connu, qui fait que vous êtes en face d'une nature intègre. La justice originelle sauvegarde une nature intègre. Et alors l'état de corruption après le péché, conséquence du péché. Alors la nature n'est plus une nature intègre. La nature est blessée. Elle est une nature blessée, elle n'est plus une nature intègre. Une nature intègre, donc, son épanouissement peut se faire parfaitement à l'intérieur de cette justice originelle. Et nous avons alors la reprise de cela qui est la grâce chrétienne. Alors vous voyez bien que saint Thomas parle de la grâce, il n'explicite pas tellement grâce chrétienne. Hein. Il est toujours pour ça qu'il nous gêne dans la somme. C'est normal, puisqu'on est en théologie scientifique. Donc en théologie scientifique, il distingue les états, mais il ne va pas parler explicitement de la grâce chrétienne ici. C'est toujours implicite, hein, c'est toujours un acte, c'est de la grâce chrétienne qu'il parle, c'est pas de notre grâce. Mais il n'explicite pas tellement le mystère de la grâce chrétienne. Il l'explicitera dans son traité sur le Christ. Dans son traité sur le Christ, il parlera de la grâce du Christ et la grâce capitale. Et c'est à partir de la grâce du Christ que nous comprenons ce que c'est que notre grâce chrétienne. Nous ne comprenons pas notre grâce chrétienne directement. Oui. Alors, la grâce va reprendre la nature, purifiée grâce salance. Donc, une grâce salance par rapport à l'état de corruption, une grâce qui ne fait pas retourner dans la justice originelle et qui met un nouvel état. Un nouvel état. L'état du racheté. L'état du Fils de Dieu dans le Christ. Oui. Parce que c'est la nature. La grâce chrétienne va permettre à la nature humaine, de retrouver dans le Christ, et je crois qu'il faut pour nous compléter toujours, parce que pour bien comprendre, dans le Christ, un état nouveau, qui était notre état de vie chrétienne. Mais ça, Saint-Thomas n'explicite pas. Ça, c'est très net. Et c'est, on aimerait, aujourd'hui, on l'expliciterait peut-être un peu plus, parce que nous avons plus de peine à comprendre ce que c'est que la théologie scientifique. On a beaucoup de peine à comprendre ce que c'est que la théologie scientifique. Alors, on aurait besoin, pour mieux faire comprendre, d'expliciter de temps en temps, au point de vue de la justice chrétienne, l'état chrétien. Parce que c'est quand même ça dont on vit. Alors, vous voyez, il y a tout ça qui est impliqué dedans. Et Saint-Thomas joue avec tout ça. Avec une espèce de grande dextérité, comme fait Saint-Thomas. Parce que pour lui, c'est facile. Pour nous, c'est difficile, mais pour lui, c'est facile. Il est tellement habitué à sa théologie scientifique. Donc, l'homme peut-il, sans la grâce, connaître quelques vérités ? Nous l'avons vu. L'homme peut-il, sans la grâce de Dieu, faire ou vouloir quelque chose ? Vous voyez, intelligence, volonté. Et vous voyez que l'intelligence passe avant. Nous aurions fait l'inverse, c'est bien évident. Et en théologie spirituelle, on ferait l'inverse. Et en théologie mystique, on ferait l'inverse. En théologie scientifique, c'est l'intelligence. Pourquoi ? Parce que les degrés de vie se prennent du côté de l'intelligence. Je vous l'ai dit à ce moment-là à propos du père de Lubac sur la question de la grâce et de la nature. Et c'est important pour nous de bien sentir ça. Troisièmement, l'homme peut-il, sans la grâce, aimer Dieu par-dessus toute chose ? Là, nous sommes dans la volonté. Quelle est la fine pointe de la volonté ? C'est aimer Dieu par-dessus toute chose. Alors, l'homme peut-il, sans la grâce, aimer Dieu par-dessus toute chose ? Peut-il, sans la grâce, observer les préceptes de la loi ? Alors, les préceptes de la loi, vous comprenez que les préceptes de la loi, c'est quelque chose de naturel. La loi n'est pas au niveau surnaturel dans les préceptes de l'Ancien Testament. Les préceptes de la loi veulent faire de nous des hommes qui comprennent leur état de péché pour devenir des hommes vertueux. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. La loi est pour faire de nous des hommes vertueux. Alors, peut-il, sans la grâce, observer les préceptes de la loi ? On l'avait vu, je crois que ce n'est pas la peine d'y revenir. Hein, s'il y avait des questions là-dessus, vous pouvez le dire tout de suite. Mais au fond, c'est pour avancer, je dis ça. Peut-il, sans la grâce, mériter la vie éternelle ? Vous voyez que toutes ces questions-là sont par rapport au volontaire. La seule question, c'est première, c'est la connaissance. Très très significatif ça. On comprend très bien que c'est du côté de la volonté que c'est le plus difficile de voir les rapports entre la grâce et la nature. C'est au point de vue de la volonté. Et alors c'est là où saint Thomas de fait, mais il le fait en second lieu par rapport à l'intelligence. Et c'est là où saint Thomas va porter son effort. Peut-il sans la grâce mériter la vie éternelle ? Ça va de soi, ça. Ici, sans la grâce, il ne peut pas mériter la vie éternelle. C'est facile à comprendre. Je lis vite ce que nous dit saint Thomas. Article 5. Hein. L'apôtre écrit dans l'épître aux Romains, la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle. Et s'il parle ainsi, c'est dit la glose, pour nous faire comprendre que Dieu nous conduit à la vie éternelle par sa miséricorde. Voici le corps de l'article. Les actes qui conduisent à la fin doivent lui être proportionnés. Alors c'est très important cette question parce que ce sera la question majeure de Suarez. voyez que pour saint Thomas, ce n'est pas la question majeure. C'est un peu une conclusion. Tandis que pour Suarez, tout sera sur le mérite. La distinction de l'ordre naturel et surnaturel est portée sur le mérite. C'est très intéressant de voir ça. Ça, c'est la réaction en face des protestants. Saint Thomas est avant les protestants, donc il est plus équilibré. Tandis que les autres sont après, sont en face du protestantisme pour rappeler le point de vue de la liberté. Et pour rappeler le point de vue de la liberté humaine, alors on insiste beaucoup sur le mérite. Oui, il y a des accents comme ça qui sont différents et qui sont importants à noter. Les actes qui conduisent à la fin doivent lui être proportionnés. D'autre part, aucun acte n'excède l'étendue de son principe actif. Nullus autem actus excedit proportionem principii activi. Nous voyons en effet que dans les réalités naturelles, aucune ne peut, par son opération, produire un effet qui dépasse sa puissance active, mais seulement un effet qui soit proportionné à cette puissance. Or, la vie éternelle est une fin qui dépasse la capacité de la nature humaine, ainsi que nous l'avons montré. C'est pourquoi l'homme ne peut, par ses seules forces naturelles, produire des œuvres méritoires qui soient proportionnées à la vie éternelle. Il lui faut nécessairement pour cela une vertu supérieure qui est la vertu de la grâce. L'homme ne peut donc, sans la grâce, mériter la vie éternelle. Ce qu'il peut faire, ce sont des œuvres qui lui permettront d'atteindre quelque bien qui lui soit comme naturel. Ainsi, il peut cultiver son champ, boire, manger, avoir un ami. Et autre chose de ce genre, comme le remarque saint Augustin dans sa troisième réponse contre les Pélagiens. C'est intéressant de voir que les Pélagiens apparaissent ici, et saint Augustin apparaît justement comme celui qui va s'opposer aux Pélagiens. Vous voyez ici, la question, elle est nette. Un acte est méritoire de la vie éternelle dans la mesure où il est proportionnel à la vie éternelle. C'est ça le propre du mérite. Qu'est-ce que c'est que le mérite ? Le mérite, c'est une propriété d'un acte. Ce n'est pas l'acte lui-même, c'est une propriété. L'acte méritoire, ça qualifie un acte. Un acte de charité est méritoire. Pourquoi ? Parce qu'il est proportionnel à la vie éternelle. Le mérite se regarde par rapport à la vie éternelle, par rapport à la béatitude, qui est considérée comme une récompense. On mérite une récompense, hein, c'est bien évident. J'ai été sage toute la journée, je mérite une récompense. J'ai été sage toute la semaine, je mérite le samedi de ne pas avoir de cours. N'est-ce pas? Parce que j'ai été sage pendant toute la semaine. Alors je mérite cela, c'est le mérite. Le mérite regarde la récompense, et le mérite est proportionné à la récompense. La récompense ici, c'est la vie éternelle. Or la vie éternelle dépasse infiniment la proportion de nos actes humains. Donc on ne peut être proportionné à la vie éternelle que par la charité, que par la grâce. Et c'est pour ça que la grâce met le pont entre nos activités et la vie éternelle. Donc, on comprend très bien que sans la grâce, nous ne pouvons pas mériter la vie éternelle. Sans la grâce, on peut simplement mériter de construire une maison, de cultiver un champ, d'avoir une bonne vigne, si c'est un bon lieu, et si on a bien travaillé. C'est ça ce qu'on peut avoir. Et avoir un ami. Oui, avoir un ami. Alors il faudrait voir si jusqu'où peut aller l'amitié sans la grâce. Ce serait intéressant au point de vue de la fidélité. Vous voyez ? Parce que c'est la fidélité qui nous montre là les difficultés de pouvoir... Mais il reste quelque chose, notre capacité d'aimer, notre capacité de choisir, notre liberté demeure. Alors vous voyez bien, c'est facile à comprendre ça. Mais c'est intéressant parce que c'est l'arrêt par le point de vue du mérite. Donc c'est ce qui pour nous est le plus facile à comprendre, puisque c'est la propriété. Le mérite qualifie un acte qui est un acte de charité. C'est un acte de charité qui est méritoire. Alors, voyons vite les objections. Première objection, le Seigneur dit dans l'Évangile, « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il semble donc que l'entrée dans la vie éternelle dépende de la volonté de l'homme. Or, ce qui dépend de notre volonté, nous pouvons l'accomplir par nous-mêmes. Dès lors, il apparaît que l'homme peut, par lui-même, mériter la vie éternelle. Réponse. L'homme, par sa volonté, fait des œuvres méritoires de la vie éternelle. Mais comme le remarque encore saint Augustin, il faut pour cela que sa volonté soit préparée par la grâce de Dieu. Je mérite le ciel, c'est sûr, c'est vrai, je le mérite. Il faut le maintenir en face de Luther. Il faut maintenir, je le mérite. Mais je le mérite par la grâce de Dieu. Vous savez bien la préface des saints. Dieu récompense les grâces qu'il a lui-même données. Disons, dans la vie des saints. Dieu récompense les grâces qu'il a lui-même, les bienfaits que lui-même a donnés. Seconde objection. La vie éternelle est la récompense donnée par Dieu aux hommes. D'après cette parole de l'Évangile, votre récompense est grande dans les cieux. Mais Dieu accorde cette récompense à l'homme en proportion de ses œuvres. Selon cette parole du psaume, tu rendras à chacun selon ses œuvres. L'homme étant maître de ses actes, il semble donc qu'il a été mis en son pouvoir de parvenir à la vie éternelle. Alors, réponse. À propos du texte de saint Paul, la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle. Nous lisons dans la glose, certes, la vie éternelle est accordée aux bonnes œuvres, mais ces œuvres elles-mêmes relèvent de la grâce de Dieu. Nous l'avons dit nous-mêmes plus haut, pour observer les préceptes de la loi selon le mode requis qui rend méritoire leur observation, il faut la grâce. Troisième objection. La vie éternelle est la fin ultime de toute vie humaine. Or, dans la nature, toute chose peut, par ses propres forces, atteindre sa fin. À plus forte raison, l'homme, qui est d'une nature supérieure, peut-il de lui-même, sans une grâce quelconque, parvenir à la vie éternelle? Ça, c'est la grosse question. L'homme, parmi toutes les natures, est le plus démuni de tous les animaux. Les animaux atteignent plus facilement leur fin naturelle que l'homme. Oui, situation tragique de l'homme. Condition tragique de l'homme. C'est bien ce que va dire saint Thomas. La troisième difficulté fait état de la fin qui est connaturelle à l'homme. Et la nature humaine, du fait qu'elle est plus noble que les autres, peut être conduite à une fin encore plus haute. Du moins avec le secours de la grâce. Fin que les natures inférieures ne peuvent d'aucune façon atteindre. Ainsi, comme le remarque Aristote, l'homme qui peut guérir grâce à certains remèdes est en meilleure disposition pour ce qui est de la santé que celui qui est rebelle à tout médicament. Donc, c'est la situation, saint Thomas ne développe pas beaucoup ici, mais c'est une des choses qu'il reprend beaucoup. Vous voyez, il renvoie au Decello. Et c'est le lieu dans le Decello. Il y a un passage là extrêmement intéressant. Si vous avez le temps de regarder ce passage, c'est un très beau passage, c'est le passage peut-être le plus beau, où il montre comment toutes les natures inférieures à l'homme atteignent facilement leur fin. L'araignée atteint assez facilement sa fin. Tandis que la plupart des hommes, ut in pluribus, n'atteignent pas leur fin. C'est Aristote qui dit ça. Ut in pluribus. Les hommes n'atteignent pas leur fin. Il y a peu d'amitié et il y a peu de contemplatifs. Or, la fin de l'homme, c'est l'amitié et la contemplation. Et il y en a peu qui l'atteignent. Il y en a beaucoup qui se marient sans vraiment réaliser une amitié. Et donc, ils n'atteignent pas leur fin. Parce que la fin de l'homme, c'est pas se marier et avoir des enfants. Ça, c'est la fin de l'abeille. C'est la fin de tous les animaux, d'avoir une progéniture. Mais la fin de l'homme n'est pas avoir une progéniture. C'est pas la fin de l'homme comme tel. Et donc la fin de l'homme, c'est pas se marier, c'est d'aimer. Et c'est d'une amitié. Alors le mariage doit être le moyen d'avoir une amitié. Mais quand ça n'aboutit pas à l'amitié, l'homme n'atteint pas sa fin. Alors, ut in pluribus ? L'homme n'atteint pas sa fin. Si c'est la situation tragique de l'homme. Alors nous, nous disons, c'est pas étonnant, il est dans un état de corruption. C'est très vrai, mais le philosophe ne peut pas avoir l'état de corruption. Alors il constate que l'homme est démuni. Vous savez, c'était déjà la considération de Platon. Parmi tous les animaux, l'homme est le plus démuni. Quand il naît, il est dans un état de fragilité qu'aucun autre animal ne connaît. Il doit être encore dans... Il ne peut pas se débrouiller tout seul. Tandis que le petit singe, c'est extraordinaire. Hein, très très vite, il bat le petit de l'homme pendant 9 mois, hein, puisqu'on a fait des concours. Alors pendant 9 mois, à partir du 9e mois, le petit de l'homme commence à rattraper le petit singe. Alors, on voit très bien, c'est intéressant de voir ça, parce que ça montre l'état d'infériorité, de fragilité dans lequel naît l'homme, selon sa nature. Parce qu'il doit atteindre une fin plus grande, plus élevée, qu'il est capable d'atteindre une fin plus élevée. Et parce qu'il est capable d'atteindre une fin plus élevée, il doit accepter cet état de pauvreté, qui est un état de connaturalité avec l'homme, pour atteindre une fin plus élevée. Et la fin plus élevée, nous la savons, c'est la béatitude, c'est la vie éternelle. Mais pour ça, il faut le secours de Dieu. Oui. Donc, l'homme est un être qui est fait pour s'appuyer sur un autre. Mais par, j'allais dire, naturellement, il est fait pour s'appuyer sur un autre. Il est fait pour, c'est pour ça la parole de l'Ecclésiaste est si fort, l'homme uni à l'homme est comme une citadelle, comme une forteresse. Il a besoin de ça, plus que les autres animaux, plus qu'aucun autre animal. Oui. Alors c'est ça que saint Thomas souligne là, hein. C'est intéressant à ce point de vue-là, que l'homme ne peut mériter la vie éternelle que par la grâce. Article 6. L'homme peut-il de lui-même se préparer à la grâce sans le secours extérieur de la grâce? Jusqu'où pouvons-nous nous préparer, hein? Ou est-ce qu'au fond, même pas se préparer? De l'ordre de la disposition. Est-il encore indigent dans l'ordre de la disposition? Parce que la préparation, c'est la disposition. La grâce, c'est l'habitus. Tandis que la préparation, c'est la disposition. Alors, est-ce que l'homme peut naturellement se préparer à la grâce? Est-ce qu'il est suffisamment intelligent pour se préparer à la grâce? En disant, oui, je vois qu'en effet, je suis dans cet état d'infériorité, alors je vais me préparer à la grâce. Saint Thomas répond, cependant, nous lisons dans Saint Jean, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Mais si l'homme pouvait se préparer lui-même à la grâce, il n'aurait pas besoin d'être attiré par un autre. C'est donc qu'il ne peut le faire sans le secours de la grâce. Il faut aller jusque-là. Il faut donc qu'il y ait l'attraction première du Père qui nous dispose à la grâce. Et cette attraction du Père est déjà une grâce. Alors ça, c'est très important pour le traité de la grâce. Hein. C'est très très important. Parce que c'est là où, par rapport aux orthodoxes, hein, nous devons bien souligner ça. Très facilement, hein, très facilement, dans la basse scolastique, on a réduit le traité de la grâce à l'habitus. À l'habitus de la grâce, c'est-à-dire l'habitus antitatif. Ce qu'on appelle la grâce habituelle. Alors, ce qui est très important ici, c'est que saint Thomas montre que la grâce habituelle est enveloppée d'une autre grâce, qui est une grâce de disposition. Et cette grâce de disposition, c'est l'attraction du Père. Je ne comprends rien au traité de la grâce si je ne vois pas en premier lieu l'attraction du Père. Et c'est l'attraction du Père qui commande tout. Et l'attraction du Père met en moi une disposition qui fait que j'attends la grâce habituelle. Alors vous voyez, les traités de scolastique, ordinairement, connaissent les autres extrinsèques, connaissent les traités de scolastique, les orthodoxes. Alors les orthodoxes disent, vous réduisez la grâce à la grâce créée, l'habitus antitatif. Alors pas du tout. La grâce, elle commence par l'attraction du Père. C'est l'attraction du Père qui est le premier moment de la grâce, qui crée en moi une disposition, un secours divin, une disposition. Et cette disposition me permet alors de m'orienter vers la grâce. Donc quand je parle de la grâce, commençons tout de suite par l'attraction du Père. C'est ça qui commande tout. Oui, surtout quand vous êtes en face d'un orthodoxe. Parce que c'est ça qui commande tout. C'est là où on voit la gratuité. Hein. La gratuité de la grâce. Si vous commencez par l'habitus antitatif, Vous comprenez que vous ne saisissez plus ce qu'il y a de caractéristique à la grâce. Ce qu'il y a de caractéristique à la grâce, c'est pas l'habitude sensitive. Ce qu'il y a de caractéristique à la grâce, c'est justement cette attraction du Père, cette attraction de miséricorde du Père. C'est le Père qui, dans sa miséricorde, m'attire et qu'il crée en moi une disposition, une ouverture, une béance, une ouverture divine vers la grâce, où je suis attiré par le Père. Ça, c'est capital. L'attraction du Père pour nous, au point de vue pratique. C'est-à-dire que si vous faites de la grâce, hein, exploitez votre capital. Le capital de grâce, c'est votre habitus sensitatif. C'est là où vous êtes, c'est votre avoir. Vous comprenez que c'est terrible, puisque la grâce, c'est le régime de la gratuité. Et vous ne saisissez la gratuité parfaitement que dans cette attraction du Père. Cause finale, il est ma fin qui m'attire et qui réalise en moi le premier amour. Et le premier amour, c'est cette disposition, c'est cette ouverture de mon cœur vers la grâce. Et la grâce vient préciser causalité formelle, l'habitus entitatif, causalité finale. Causalité formelle et causalité efficiente. C'est par la grâce que je suis méritoire, c'est pas par la disposition. Mais c'est pas le mérite qui est premier. Le mérite, c'est une propriété, c'est second. Vous voyez ? Alors on a déplacé l'ordre profond du mystère de la grâce en regardant le point de vue de l'habitus entitatif, en regardant le mérite. C'est très important de rappeler le mérite. Il le faut face aux protestants, face à Luther. Il faut, mais le mérite est une propriété, c'est second. Il y a disposition, habitus, mérite. Les trois moments. Et ces trois moments sont très très importants. Mais le premier, vous comprenez bien, c'est celui de la cause finale. Et donc c'est le plus important de tous. C'est celui-là qui enveloppe tout. Et c'est celui-là qui enveloppe tout. Et qui est premier, qui est dernier. Et c'est pour ça que Saint Thomas posera la question, est-ce que je peux mériter la grâce de persévérance finale? Est-ce que je peux être sûr de mon salut? Il y aura une dernière gratuité. La gratuité première, elle est dernière. Et donc, elle enveloppe tout.
Oui. On peut être sûr de la gratuité?
Non. On n'est pas sûr. C'est justement le problème de la gratuité, on n'est pas sûr.
Quand Sainte Thérèse disait, les saints qui, justement, disaient jusqu'au dernier moment,
je suis
pas sûr, tandis que ben moi, je m'abandonne à Dieu.
Mais oui, s'abandonner, c'est se remettre à la gratuité.
C'est
de ne pas mettre sur le chose, je suis sûr, étant donné la vie que je vais mener, je suis sûr du ciel.
C'est pas du tout.
Il y a la dernière grâce de persévérance finale qui fait qu'on est dans un état d'attraction. C'est le Père qui m'attire, et au fond, c'est l'abandon. La remise entre les mains de Dieu. La remise entre Dieu, c'est. L'abandon est premier, c'est l'attraction. Et dernier. Et tout le reste est enveloppé de cela. C'est pour ça que je crois que c'est très important de ponctuer les trois moments, vous voyez. Disposition par rapport à l'attraction, l'habitus qui me structure, et puis le mérite. Mais au-delà du mérite, hein, le mérite n'est pas dernier. Au-delà du mérite, je retrouve la gratuité. Donc, je veux dire, vous voyez, les quatre moments. Les quatre moments. 1, 2, 3, 4. Et le quatrième, c'est encore la remise totale entre les mains de Dieu pour la gratuité. La gratuité commande tout mystère de la grâce. C'est normal.
Parce que le traité de la grâce, c'est le traité de la gratuité. Ce n'est pas le traité du mérite.
Oui.
Le terme en latin, gratia gratum patiens, alors ça s'identifie avec un peu l'ensemble.
Tout l'ensemble. Quand on parle du traité de la grâce, c'est tout. Mais ce que je voulais dire, c'est que la sensibilité scolastique, basse scolastique,
la sensibilité de la basse scolastique, c'est que la sensibilité de la basse scolastique, c'est de mettre en pleine lumière la cause formelle et la cause efficiente, et d'oublier la cause finale. D'une certaine manière, c'est toute la scolastique a oublié la cause finale. Vous voyez, on a regardé cause formelle et cause efficiente, c'est ça qu'on a mis en pleine lumière. Suarez, c'est la cause efficiente. À la suite d'Occam, c'est la cause efficiente. La cause efficiente, liée à la cause formelle. Et on a oublié la cause finale. Vous voyez ?
Alors le traité de la grâce, c'est tout l'ensemble. Et la grâce qui nous sanctifie, qui nous divinise, c'est tout. Vous voyez ? Je suis divinisé formellement par l'habitus antidatif, mais l'habitus antidatif n'a de signification que quand je le regarde à partir de là. Oui. Je crois qu'on peut ponctuer de cette manière-là. Ça nous aide à ponctuer le traité de la grâce de saint Thomas. Vous voyez ? Et la scolastique n'a vu que ça. C'est normal, c'est toujours comme ça qu'elle fait. On définit, on veut définir, Mais non, c'est pas ça. C'est essayer d'entrer le plus profondément dans le mystère. Or, si je veux entrer le plus profondément dans le mystère, la grâce, c'est ce qui me rend aimable à Dieu. C'est ce qui me rend aimable à Dieu. C'est ce qui, fait de moi un enfant de Dieu. Donc, je suis attiré par le Père. Alors, voyons bien ça. L'homme petit de lui-même se préparer à la grâce sans le secours extérieur de la grâce. Cependant, nous lisons dans saint Jean. Vous voyez, c'est très beau parce que saint Thomas a pris justement le texte qui commande tout cela. C'est Jean. Hein? Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Cependant, nous lisons dans saint Jean. Vous voyez, c'est très beau parce que saint Thomas a pris justement le texte qui commande tout cela. C'est Jean. Hein? Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc, l'attraction du Père. Ça, c'est Johannique. Mais si l'homme pouvait se préparer lui-même à la grâce, il n'aurait pas besoin d'y être attiré par un autre. Donc, il ne peut le faire sans le secours de la grâce. Il y a une double préparation de la volonté au bien. L'une qui la dispose à bien agir et à jouir de Dieu. Une telle préparation de la volonté ne peut se faire sans le don habituel de la grâce, qui est au principe de l'œuvre méritoire, ainsi qu'on l'a dit à l'article précédent. L'autre préparation s'entend de cette disposition. Alors, vous voyez la différence entre habitus et disposition. Tout est là-dessus. L'habitus, disposition. C'est très curieux parce que c'est exactement, vous voyez, les catégories d'Aristote que nous trouvons, exis, diathesis. Et alors, ce qui est curieux, c'est que dans l'ordre naturel, dans l'ordre philosophique, l'exis commande la diathesis, et ici c'est l'inverse. Hein? On est dans l'ordre naturel. C'est le petit. Les deux qui montre l'exis, hein, c'est la qualité par excellence. La diathésie, c'est pas la qualité par excellence. Ici, au niveau de la grâce, qu'est-ce qui est premier ? Ah, c'est l'attraction du Père. Mais vis-à-vis de l'attraction du Père, je suis dans un état de béance que Dieu crée en moi. Il crée en moi cet état d'attente, de disposition. Oui. Et la disposition, c'est justement cet état d'attente. Je suis dans un état d'attente. L'exis, je possède, c'est la voie. Donc c'est la causalité formelle qui l'emporte sur la causalité finale. C'est très important de saisir ça. Alors voyons donc. L'autre préparation s'entend de cette disposition de la volonté humaine qui la rend apte à obtenir le don de la grâce habituelle. Pour se préparer à la réception de ce don, on ne peut présupposer un autre don habituel dans l'âme, car on remonterait à l'infini. Mais il faut présupposer un secours gratuit de Dieu qui meuve l'âme intérieurement ou lui inspire, alors notez bien le point de vue de l'inspiration, hein, et voyez où ça se situe. Ou lui inspire le bon propos du bien à faire. Ce sont là, en effet, les deux modes selon lesquels nous avons besoin du secours divin, ainsi qu'il a été dit. Que nous ayons besoin, pour cette préparation à la grâce, du secours de la motion divine, la chose est manifeste. On est de l'ordre du secours, de l'ordre de la motion, de l'ordre de l'inspiration, hein. Vous voyez les expressions de saint Thomas, c'est très très significatif. c'est de l'ordre du secours, auxilium, de la motion et de l'inspiration. Ça, c'est la causalité finale. Tandis que de l'autre côté, on est de l'ordre de l'exis, de l'habitus, de ce qui vient déterminer l'âme et qui permet à l'âme de poser un acte méritoire. Vous voyez, c'est très important ça, si on essaie de comprendre un tout petit peu. Hein, parce que vous voyez qu'une morale qui serait une morale de la vertu ne pourrait rien comprendre au mystère de la grâce. La morale stoïcienne, qui est une morale de la vertu, ne peut rien comprendre. Elle ne peut comprendre que l'exis. Une morale du bonheur, une morale qui commence par l'amour. Ah oui, ça m'ouvre à la causalité. Et je comprends un nouveau secours qui est l'attraction du Père sur moi. Vous voyez, c'est important de voir comment il y a une certaine philosophie éthique qui me coupe de la théologie de la grâce, et il y a au contraire une philosophie éthique qui me montre comment je suis en attente de la grâce. Je suis en attente de la grâce par l'amour. Je ne suis pas en attente de la grâce par les vertus. Du reste, tout le pharisaïsme, c'est les vertus. Hein. C'est bien évident. Marquez qu'il peut y avoir un autre pharisaïsme non conventionnel et qui fait, moi, je suis en dehors des vertus et je vous glorifie. Et dans ça, c'est autre chose. Hein. Mais normalement, ce n'est pas du vertueux. Que nous ayons besoin pour cette préparation de la grâce, du secours de la motion divine, la chose est manifeste, étant donné en effet que tout agent agit pour une fin. Il s'ensuit nécessairement que toute cause oriente ses effets vers sa fin à elle. Et comme d'autre part, à l'ordre des agents ou moteurs répond l'ordre des fins, il faut de la même nécessité que l'homme soit dirigé vers la fin ultime par la motion du premier moteur. Tandis qu'au regard des fins prochaines, il sera mu par les agents inférieurs. Ainsi, c'est sous la motion du général en chef que le soldat se porte vers la victoire, tandis qu'il suit le fanion de sa compagnie sous la motion du capitaine. C'est extraordinaire, hein, l'aspect militaire. Voyez Saint Ignace qui apparaît là, avant la lettre, mais c'est Saint Ignace qui est intégré là-dedans. Mais voyez qu'il est intégré au niveau de l'exemple, pas au niveau du principe. C'est intéressant de voir ça. C'est vraiment au niveau de l'exemple. Donc au point de vue de l'exemple, vous retrouvez exactement toute la militia qui est là présente. Hein. La militia est présente. Alors on a le capitaine et le fanion. Alors vous voyez bien la différence entre les deux, le fanion de la compagnie et le capitaine qui me rappelle le point de vue ultime et dernier. Ainsi donc, vous voyez l'analogie, ainsi donc, puisque Dieu est le tout premier moteur, donc il est du côté du général, Dieu. Ainsi donc, puisque Dieu est le tout premier moteur, toutes choses sous sa motion feront retour vers lui par leur tendance générale ou bien. En quoi précisément chaque être s'assimile à Dieu selon sa mesure. La divinisation se prend du côté de la causalité finale. Voilà les orthodoxes. Ainsi donc, puisque Dieu est le tout premier moteur, toutes choses sous sa motion feront retour vers lui par leur tendance générale au bien. En quoi précisément chaque être s'assimile à Dieu selon sa mesure. Et en ce sens, Denis écrit que Dieu convertit toutes choses à lui-même. Mais les hommes justes, Dieu les convertit à lui-même comme à une fin spécialement voulue et à laquelle ils désirent adhérer comme à leur propre bien. Selon cette parole du psaume, il m'est bon d'adhérer à Dieu. C'est pourquoi pour se convertir à Dieu, l'homme a besoin que Dieu le convertisse. Et cela, ce n'est pas autre chose que se préparer à la grâce en se tournant en quelque sorte vers Dieu. Ainsi, Celui dont le regard est détourné du soleil se prépare à recevoir sa lumière en dirigeant ses yeux vers lui. Il est donc évident que l'homme ne peut se préparer à recevoir la lumière de la grâce sans un secours gratuit de Dieu exerçant sur lui sa motion intérieure. Donc c'est très beau comme article, hein, c'est un très bel article, parce que ça nous fait comprendre les liens entre le point de vue de la cause formelle et les liens de la causalité finale qui sont dans ce grand mouvement de conversion. La conversion du côté de la cause finale. Convertir, c'est être attiré vers le sommet, c'est s'ouvrir, tourner la tête vers le sommet. Tourner son cœur profond vers le sommet. Alors c'est ça se convertir, c'est s'ouvrir à cette attraction du Père. Et en s'ouvrant à cette attraction du Père, on va alors pouvoir coopérer avec lui. Et on pourra coopérer avec lui grâce à ce don de l'habitus sanctitatif.
Quelqu'un qui découvre l'existence de Dieu, qui contemple et qui le reconnaît, est-ce qu'il n'est pas encore en disposition là-dedans?
Ah oui, mais oui, parce que c'est de secours. S'il reconnaît Dieu, l'existence de Dieu, hein, l'existence de Dieu, uniquement au niveau de l'existence de Dieu.
Naturellement.
Bon, ça implique un secours de Dieu. Dans le climat d'aujourd'hui, un homme ne peut découvrir l'existence de Dieu que s'il y a un secours de Dieu sur son intelligence.
Pour qui est le même que c'est un...
Qui n'est pas nécessairement le même, mais qui est quand même l'attraction du Père.
C'est sûr.
Oui. Alors, ce que les gens ne reconnaissent pas, ils disent donc, je retourne vers Dieu, l'attraction produit en lui un amour. C'est l'attraction, c'est l'amour de Dieu. Alors, Dieu sans l'être, sans l'habitus entitatif, sans la cause formelle. Vous voyez bien? Alors on voudrait retourner à Dieu uniquement par l'amour, sans que Dieu me transforme. Non. Quand Dieu m'attire, il me transforme. Et donc quand Dieu m'attire, il me transforme. Il transforme mon intelligence. Il permet à mon intelligence de découvrir que c'est par l'être que je remonte jusqu'à lui. Mais c'est second, c'est évident que c'est second. Il faut d'abord l'amour. Tout ne peut se faire que sous la mouvance de l'amour. Oui, c'est sous la mouvance de l'amour que je retourne vers Dieu. Mais Dieu m'attire sans détruire mon être. En permettant au contraire d'être parfaitement moi-même. Et ça, c'est le mystère de la grâce. La grâce s'annonce. La grâce me purifie et me donne. Et donc, Dieu me permet de me retourner vers lui comme un être intelligent qui retourne vers Dieu par l'intelligence et par le cœur. Et non pas uniquement par le point de vue du cœur. Retourner vers Dieu uniquement par le cœur, ce serait oublier que Dieu veut que je sois un être intelligent. Oui, c'est exactement la même position. C'est la position de l'ontologisme. Elle renaît tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'ontologisme, c'est le télescopage du point de vue de l'intelligence. Alors, il faut uniquement l'amour. Mais non, vous êtes un être, on est des êtres spirituels. Si on est des êtres intelligents, nous ne pouvons pas retourner vers Dieu avec le télescopage de l'intelligence. On ne peut pas. Mais c'est l'amour qui est premier. Mais l'amour ne supprime jamais l'intelligence. L'intelligence peut supprimer l'amour, mais pas l'amour l'intelligence. Et vous voyez que l'amour est vrai dans la mesure où l'amour n'est pas rival de l'intelligence. Très curieux, on retrouve perpétuellement les mêmes positions. Donc voyez bien là ce que souligne saint Thomas. Cet article, il est très beau. Hein. Il est un peu la clé de la question. Oui, c'est un peu la clé de la question, ça. Parce que c'est là où je vois exactement comment se fait ce retour vers Dieu, l'attraction du Père. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il est johannique. Vous voyez, c'est saint Jean qui nous donne le dernier mot sur la grâce. Parce qu'il nous fait comprendre l'attraction du Père.
Il devrait confirmer l'amitié la plus parfaite, dans ce sens-là, que dire que l'amitié entre les chrétiens est plus parfaite que l'amitié
entre les chrétiens. Elle va beaucoup plus loin. Oui. C'est comme quand je subis l'attraction du Père, normalement je suis plus intelligent que si je la subissais pas. Oui. Ça, c'est un autre mystère. Je peux dire qu'elle est donnée à tout le monde. Le soleil est donné à tous. Et ça ne va pas la compagnie.
soleil est donné au bon et au méchant. Si Dieu fait ça dans l'ordre surnaturel, il le fait aussi dans l'ordre surnaturel. Mais il réclame cette, vous voyez, l'amour de Dieu, cette attraction du même est donnée à tous. Mais Dieu laisse la liberté. Autrement, vous devriez dire qu'il y a des gens qui sont condamnés par la nature, parce qu'ils sont incapables de voir la lumière du soleil. Et donc, ce serait, si vous voulez, les aveugles de naissance. Il y aurait des aveugles de naissance. Les aveugles de naissance, Saint Jean, Dieu permet l'aveugle de naissance pour qu'en lui soit glorifié le Père. Et donc, pour qu'on puisse mieux comprendre la gravité. Dire que la grâce est donnée à tous.
Ben, c'est bien évident. Oui.
Est-ce qu'il faut dire disposition, cette préparation au couvent? Est-ce que c'est une disposition?
C'est l'oxyme, disposition. C'est ça?
C'est la traduction.
Qui est disponible, c'est un nouveau
symbole. Est-ce que l'attraction à la chose finale?
Je crois que c'est la même chose. Préparation ou disposition?
On fait analogie avec la diathésie.
Ah oui, oui, tout à fait. Parce que la diathésie, c'est ex parte matérié. Donc la diathésie, c'est ex parte matérié. Alors préparation, c'est ex parte matérié, c'est-à-dire le premier moment du retour vers la finalité. Et je crois que c'est la clé, c'est diathésie, c'est exis. Exis. Oui. L'exis, c'est l'habitus. Alors c'est la cause formelle qui domine. La diathésie, c'est du côté de la matière, c'est la finalité qui domine. Toujours ce lien entre le point de vue de la matière et la fin. C'est très curieux. Et c'est les deux choses que la scolastique décadente a oubliées, vous voyez. Causalité formelle, causalité efficiente. C'est plus facile. C'est l'homme qui possède son bien. L'homme qui est en béance vis-à-vis de la cause finale, qui est en attente vis-à-vis de la cause finale, l'homme qui est en préparation vis-à-vis de la cause finale, c'est le bien. Une diathésie surnaturelle, c'est évident. Une disposition surnaturelle. Oui.
Est-ce que la grâce est toujours pure gratuité?
Ah,
donc, d'un point de vue des indulgences, il n'y a aucune certitude
que les indulgences se prennent du côté du mérite, pas du côté de l'attraction. L'attraction, c'est justement le point de vue de la pure gratuité. Je suis attiré. J'accepte ou j'accepte pas d'être attiré. J'accepte ou j'accepte pas. Là, la liberté fondamentale est là. Acceptez-vous d'être attiré par un autre? Par orgueil, je ne veux pas. Ce que disait le missionnaire, pour le bouddhiste, ce qui est le plus difficile, c'est d'accepter cette gratuité d'être attiré par quelqu'un qui est autre. Parce qu'il veut lui-même, le vieux stoïcisme. Il y a un stoïcisme des deux côtés, oriental et occidental. C'est très intéressant de voir ça. Parce que c'est l'attitude fondamentalement humaine, ça. C'est de pouvoir faire son salut par soi-même. Moi, je suis suffisamment intelligent pour faire mon salut par moi-même. Alors, je n'accepte pas le secours de l'autre. Et ça, c'est net. Hein. Toutes les idéologies contemporaines par mode dialectique, c'est comme le point de vue de vouloir par soi-même atteindre son salut. Tandis que l'ouverture, alors c'est pour ça que je dis l'ouverture à la grâce, c'est la diathésie, cette disposition, cette préparation. Préparation à l'unité. Oui, ça demande préparation à l'unité. Je crois qu'on pourrait être très très proche de diathésie. Moi, j'aime bien parce que j'aime bien retrouver le parallélisme entre les deux, vous voyez. Que la diathésis, elle est la disposition ex parte matérielle. Or, ex parte matérielle, on dépend du modèle de finalité. On est dans l'état embryonnaire, si vous voulez. Alors, on dépend de la fin. Dès qu'il y a l'organisation, l'habitus, la cause formelle et la cause efficiente, mérite. Vous voyez ? Vous avez les diverses causalités qui sont là. Mérite.
Regardons tout de suite les objections et les réponses, elles sont nombreuses ici.
Mais c'est un article très important, c'est l'article clé de la question, je crois.
cet article 5, avec l'article 1er, si vous voulez, l'article 1er, parce que c'est la connaissance, mais du côté de l'amour, c'est là. Et ça, c'est important pour bien tout le traité de la grâce que saint Thomas vous donnera ensuite. Pour bien comprendre que tout son traité sur l'habitude sensitative est commandé par l'attraction du Père.
Oui. Est-ce qu'il y a un premier amour dans l'amitié ?
Oui, tout à fait. C'est ça que je souligne, premier amour. L'attraction à l'égard du bien, c'est cette bien-aisance.
Alors, est-ce que dans l'amour d'amitié, cette attraction se fait aussi, d'une certaine manière, par le bien ?
Oui, elle s'est fait par le bien, tout à fait. Elle est première, et je l'accepte ou je l'accepte pas. Ce premier amour, il m'est donné gratuitement. C'est vrai, il m'est donné gratuitement. Et ce premier amour, c'est l'attraction vers le bien. Ici, c'est l'attraction du Père. Oui. C'est le Père qui, dans l'ordre surnaturel, joue le rôle de la première attraction de l'enfant à l'égard de sa mère. Oui. On passe de la mère au Père. Oui. C'est le Père qui est comme une mère, plus tendre qu'une mère, parce que justement, il n'abandonne jamais son fardeau. Et l'enfant est toujours dans cet état de disposition, d'attraction vis-à-vis du Père. Oui. C'est très très important ça. Je crois que cet article-là, vous voyez, c'est là où on doit saisir les différents aspects.